RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Toutes les semaines, tu trouves ici tout ce que tu cherches, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour que l'on puisse t'accompagner et t'aider à rester motivé. Yoann Durand, athlète, membre de l'équipe de France de marathon, est avec moi. Salut Yodu.
Toujours là, fidèle au poste.
Comment ça va, mon futur champion olympique ?
Ben ça va impeccable, ça va, ça roule, ça galope en cette nouvelle année, c'est impeccable, tout va bien.
Ouais. Tu retrouves tous tes plaisirs, hein. Je vois que tu fais des spé cross,
ouais,
je vois que tu mets
ça,
les pointes.
Ouais. On repart par les bases, on repart par les crosses, un peu de foncier, un peu de boue, un peu de footing long, un peu de piste aussi, je reviens sur la piste.
Ah oui, j'ai vu ça, hein. 26 x 200 mètres il y a quelques jours.
C'est ça, exactement, ouais. faut retourner aux bases, ouais. Et puis après j'irai un peu plus sur la route, mais dans un second temps.
La progressivité. Bravo,
c'est ça,
coach.
Exactement.
Tu appliques les préceptes que tu donnes dans ce podcast RMC Running. Une nouvelle fois, on vous souhaite à tous une excellente année remplie de défis et de records personnels. Et puis, cette semaine, on a encore un coureur exceptionnel, un spécialiste des longues distances, Guillaume Ruel, recordman de France du 100 km, recordman d'Europe du 50 km, qui sera avec nous. On va revenir sur son parcours, sur sa méthode d'entraînement et sur ses objectifs pour 2023. Une année qui sera chargée en perspective. Et puis d'ailleurs, la séance va être adaptée à son profil. Comment bien appréhender l'ultra longue distance ? Y a-t-il un âge minimal pour se lancer sur du long ? Quelles sont les erreurs à éviter ? On aura également un bon plan d'ossard. Une course sympa d'ailleurs, Johan, cette semaine. Une toute nouvelle course parisienne, le 10 km des Champs-Élysées. C'est prévu le 5 février. Tu l'as mis au programme de ma prépa marathon. Donc j'y serai. Voilà, au début.
Tu seras. Bah alors, tu sais quoi ? Allez, vas-y, je viens.
Ah bah cool, moi j'aimerais bien que tu viennes, tu veux venir ?
Non mais je vais réfléchir à ma planif, on en parlera, mais...
Ah, ça m'intéresse si t'es là, bien sûr.
Bah,
que je te vois au départ.
Il n'y a pas beaucoup de courses sur route en février.
C'est vrai, bah écoute, en plus le parcours s'annonce sympa, on sera avec Sylvain Pasquinelli, l'organisateur de l'événement. Allez, c'est parti, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, ça va borner sévère, évidemment.
J'ai commencé à courir depuis l'âge de 10 ans. À 10 ans, je courais des 10-15 km.
Donc. Un coup de chapeau à présent à Guillaume Ruel.
Mon standard, c'est un réveil aux alentours de 5h30. Je pars courir à 6h, je rentre 7h, 8h, 8h30, je pars à la fac. Je cours plus de 200 km par semaine.
Quête pour dormir un peu, qu'il y en ait au moins un qui se repose.
Non, dormir, c'est mourir.
Dans ce laps de temps, il faut réussir à caser deux entraînements de course à pied. Pour réussir à caser les cours, les révisions.
J'ai mal.
Faut toujours des gens un peu atypiques, un peu partout. Et...
Ce Normand de 23 ans, originaire de Valognes dans la Manche, a été sacré ce week-end à Amiens, champion de France du 100 km.
C'est un peu la discipline ingrate de l'athlétisme.
Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long.
Il a bouclé cette distance de 100 km en seulement 6h42 minutes et 48 secondes, le record pour cette épreuve.
J'ai pas besoin d'être reconnu dans les grands journaux, sur les grandes chaînes nationales, mais non, ça suffit à mon bonheur.
Je nage dans le bonheur.
En fait, tu nages pas dans ton t-shirt.
Eh oui, on est heureux de l'accueillir, Guillaume Ruel, recordman de France du 100 km en direct avec nous. Salut Guillaume.
Salut les gars.
Bon écoute, l'important c'est de faire les podcasts running de référence, et c'est le cas aujourd'hui du coup.
Ah bah oui, exactement.
Comment ça va Guillaume ?
Bah moi ça va super bien, j'ai vécu une super belle année 2022.
Ah et... ça c'est sûr.
Bah, je souhaite à tous les auditeurs une très belle année 2023.
Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de reparler sur tout ce que tu as déjà accompli. Tu es tout jeune, hein, on le précise. On aura ton âge dans un instant dans le CV de coureur. Et puis, on peut également parler de ton rapport avec Yodu. Yodu, c'est un des petits que tu as couvé sur un stage au Portugal il y a quelques années, c'est ça ?
Exactement, il a eu le privilège et l'honneur d'être dans ma chambre. Donc, j'ai pu m'en occuper pendant 15 jours.
Ah ouais, et t'es déjà taré des longues distances comme ça ?
Oui, ah oui, alors il était avec un collègue à lui, triathlète, Crian Le Bihan, qui fait du duathlon, qui a été champion du monde ou d'Europe là récemment.
Ouais.
Et les deux, bah c'est simple, ils partaient à 9h le matin, ils revenaient, je crois, il était 18h entre le vélo, la natation, ils bornaient les deux comme deux gros cochons, quoi. Ils rentraient, ils se couchaient à 21h et puis ils repartaient le lendemain, donc c'était assez impressionnant. C'est vrai que c'était quelqu'un qui était déjà très attiré par
à son âge,
tout ce qui était long, hein. Parce qu'il était jeune, je sais pas, t'avais quel âge, 18 ans, et il était avec les marathoniens, quoi. Il venait découvrir un peu le collectif du marathon. Et du coup, bah voilà, il était dans le grand bain.
Guillaume, c'est sympa de partager un stage et partager la chambre de Yoann Durand.
Ah bah moi c'était mon premier stage fédéral et surtout avec les grands quoi, c'était avec les marathoniens, donc il y avait Johan, il y avait Nicolas Navarro aussi, il y avait tout ce beau monde là. Et du coup bah
que des cracks.
Que des cracks et du coup bah je me suis retrouvé un peu avec le plus expérimenté du groupe, on va dire Johan qui a, dès qu'on est rentré dans la chambre.
Sage.
Ouais,
c'est ouais, exactement. Dès qu'on est rentré dans la chambre, il a privatisé le lit double déjà.
Ouais. Et... non mais c'est vrai, il y avait une chambre et c'était la chambre, mais sur la gauche, il y avait une deuxième chambre avec un lit double.
Voilà.
Tu crois que j'allais laisser ça aux jeunes ou quoi?
Le lit de camp aux gamins, bien sûr, t'as raison.
Exactement.
Alors que nous, on partait toute la journée s'entraîner. Johan, il faisait de la marche nordique et de l'aqua jogging.
Oui, mais Guillaume, donc, le respect des anciens, quand même, c'est important.
C'est ça. Et puis la sieste, moi, je dormais, mais eux, ils dormaient pas.
Ah non.
Si, moi, je revenais après la sieste et on écoutait le Moscato Show.
Mais quel bonheur. Décidément, Yodu, on était fait pour s'entendre. Hein. C'est fou. Quand même.
C'est vrai.
Eh, ouais,
pareil, tout pareil.
L'histoire est bien écrite. Alors, Guillaume, question toute simple. Pourquoi tu cours, tout simplement?
Oh, bah, moi, c'est parce que ça me fait plaisir et bah, j'aime beaucoup être tout seul, courir tout seul, en fait, peu importe, mais j'éprouve un sentiment de liberté et c'est ce qui me rend le plus heureux, en fait. S'il y a une journée où je cours pas, je suis malheureux et donc. C'est un besoin dans mon équilibre en fait au quotidien et il y a la dépense énergétique, on voit des beaux paysages, c'est toujours varié, les entraînements c'est toujours varié, donc non, moi j'y prends un grand plaisir.
Alors, question qui suit, pourquoi tu cours autant?
Bah parce que ça a devenu un peu addictif quoi, faut toujours courir.
Ah c'est au-delà de l'addiction là, c'est flippant là, c'est la maladie mentale quasiment, pardon, non je plaisante hein, évidemment.
Non mais c'est mon quotidien en fait, il est rythmé comme ça et donc je cours beaucoup, j'ai toujours beaucoup couru, mais en fait... pour moi, courir une heure, vraiment en allure fondamentale, limite, c'est plus la balade digestive qu'un entraînement physiologique, quoi. Donc, non, franchement, moi, c'est un pur plaisir de courir. Et après, vu les distances que je prépare maintenant aussi, c'est un peu une nécessité aussi de courir beaucoup, même si je pourrais passer plus de temps sur des sports portés, par exemple.
Johan, est-ce que tu es admiratif de ce type de profil ?
Ouais, complètement, parce que Guillaume avait tout de suite, il avait 18 ans, il venait avec les meilleurs marathoniens parce qu'il avait déjà, il était déjà très vite monté sur les distances longues. Il avait déjà fait un semi et je crois pas qu'il avait fait de marathon à ce moment-là, mais il allait en faire un. Et puis voilà, lui, il a senti tout de suite qu'il avait des qualités pour le long et qu'il aimait l'endurance, qu'il aimait courir, qu'il aimait le long. Donc il s'est pas posé de questions, il est allé encore plus loin que le marathon sur les 50 et sur les 100. Et ouais, je suis admiratif parce qu'il ne s'est pas trop posé de questions. C'est-à-dire que quand on est jeune, quand on a 16-17 ans, normalement, tout le monde va te dire reste sur la piste, fais tes armes sur le 5000, fais du 10 km ou du semi à la limite, mais va pas plus loin. Et lui, il a dit moi, ce que j'aime, c'est faire du long, c'est faire des 50 et des 100 bornes, donc ciao. Et voilà, et tout de suite, il a été performant et ça lui a donné raison. Et c'est comme ça qu'il... qui se régale, donc tant mieux pour lui. Ouais.
Après, vous allez l'entendre, Guillaume était prédestiné. On va y revenir, évidemment, ça sera juste après ton CV de coureur.
RMC, le CV de coureur.
T'as quel âge aujourd'hui, Guillaume ?
Là, j'ai 25 ans.
Et tu cours depuis quand, alors ?
Je cours depuis mes 10 ans.
Tu cours combien de fois par semaine, en moyenne ?
13 fois.
D'accord. Des records perso dont tu
pas,
es fier.
C'est la question du coup.
Ah ouais, c'est ça. C'est...
Je cours pas le dimanche après-midi.
Le dimanche après-midi. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que tu dois t'envoyer le dimanche matin, c'est pour ça.
C'est ça.
Des records perso dont tu es fier, forcément.
Moi, j'aime bien dire que j'ai réussi à courir le 1500 mètres en moins de 4 minutes et le marathon en moins de 2h16 et le 100 km en moins de 6h20.
Voilà, ça vous place quelqu'un, ça vous place un homme, et en plus qui a tout juste 25 ans. Quelle est la dernière course que tu as disputée ?
C'était le 10 km du Maine libre mi-novembre.
Bon, hein, le chrono, qu'on ait une idée ?
31-20, je crois, à peu près.
Wow, tranquille. La prochaine ? Ah, ça vient vite.
La prochaine course, normalement, c'est le 10 km de Valencia la semaine prochaine.
Exactement. Ah. Alors, c'est intéressant parce que tu es un athlète complet, tu fais de l'ultra-long. Quelle est ta séance préférée ?
Ma séance préférée, c'est celle que j'ai fait pour la prépa du championnat du monde de 100 km. C'est un 60 km en 3 x 20 km et cube 0 minute en allure progressive et en finissant par bloc de 20 km, quoi,
oh
de plus en plus vite.
Oh là 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 là, quel enfer, Yodu, là, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Je sais pas. Là, moi, je j'ai jamais entendu ça.
Et alors, tiens, ça aussi c'est intéressant. Quelle séance tu détestes, Guillaume ?
J'aime pas les fartleks en nature que mon entraîneur me conseille fortement de faire.
C'est-à-dire, t'aimes pas le dénivelé, le...
Non, en fait, pour moi, il faut que tout soit maîtré, tout soit mesuré, parce que face à la sensation, oui. J'aime pas du tout. Donc,
Il faut des allures précises et régulières et métronome.
T'es pas un crossman, quoi, c'est pas ton truc.
Pas trop, non.
Ok. Et ben voilà, Guillaume Ruel qui est avec nous cette semaine. On va donc revenir sur ton histoire, toi qui es tout jeune. Je le disais, comme Obélix, tu es tombé dans la marmite quand tu étais tout petit. Rappelons tout simplement que Stéphane, ton papa, est lui aussi un ancien ultra-fondeur, hein, puisqu'il a détenu plusieurs records de France, notamment dans sa catégorie d'âge, encore aujourd'hui d'ailleurs, je crois. Médaillé de bronze avec l'équipe de France au championnat du monde des 24 heures de Turin. En 2015, hein, c'est pas si vieux, donc voilà, ton papa est lui aussi un grand champion. C'est ce qui t'a mis dedans tout de suite, Guillaume, j'imagine ?
J'ai commencé à courir avant papa. Papa s'est mis assez tard à la course à pied, mais c'est vrai que... je l'ai toujours accompagné sur les 100 km, que ça soit à vélo, en accompagnateur, ou sur les 24 heures en tant que ravitailleur, et du coup, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, quoi.
Et tout de suite, le long, c'est ce qui t'a attiré, c'est ce qui t'a plu.
C'est ça, moi je suis de la génération 97, donc c'est une génération un petit peu dorée, donc c'est-à-dire que les portes étaient assez rapidement fermées sur tout ce qui était distance courte, ne serait-ce que pour prétendre à des top 10.
Il y a qui en 97 par exemple
qu'on C'est l'époque de Jimmy.
Voilà.
D'accord. Zach Charic, non, Yann est un poil plus vieux.
D'accord.
Mais Abderrazak Charic, Hugo, je crois qu'il y a Fabien Palco, vraiment des grosses générations. Ouais.
C'est ça. Et du coup, moi, mon objectif, quand j'ai commencé à être assez performant, c'était d'essayer de faire des podiums nationaux sur les championnats de France. Et du coup, ce qui s'ouvrait à moi, c'était le 10 km, le semi-marathon. Du coup, je me suis lancé là-dessus. Et puis après, j'ai fait mon premier marathon au championnat de France à Albi. J'avais fini quatrième et du coup...
19 ans, premier marathon. Ouais.
J'avais fait quatrième en élite et puis j'avais gagné avec le record du championnat en espoir. Et du coup, forcément, ça m'a toujours donné envie d'aller chercher les meilleurs résultats. Et vu que j'ai toujours pris beaucoup de plaisir sur l'endurance, je me suis naturellement orienté là-dessus.
C'est intéressant parce que c'est assez rare finalement ce type de profil. Pour avoir une idée, dans ton adolescence, le kilométrage hebdomadaire, c'était quoi alors? À 15-16 ans, tu courais combien de kilomètres par semaine ?
15-16 ans, je pouvais courir 100-120 kilomètres semaine.
Ce qui est énorme déjà.
Ouais, c'est déjà pas mal. Hein.
Ouais.
Ce qu'il dit pas, c'est qu'il a été aussi étudiant...
En pharmacie, on va en parler, bien sûr. C'est pas terminé.
Ouais. Ouais.
Mais c'est quand même très très élevé comme volume, Johan, pour son âge.
Non, mais c'est ça.
Un adolescent en pleine croissance. Ouais. Est-ce que c'est pas risqué ? Question toute simple, mais à ton avis ?
Si, il y a un risque de blessure quand tant que la croissance n'est pas terminée, le fait de faire des gros volumes est toujours plus ou moins risqué. Après, c'est peut-être un peu plus vrai chez les filles qui, d'un point de vue hormonal, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais non, après, il faut se connaître aussi. Guillaume, peut-être qu'il avait cette génétique-là d'être un coureur assez solide. C'est quelqu'un qui est assez, assez costaud, donc assez grand. Et peut-être que tout de suite, il encaissait bien le kilométrage. Donc ça, c'est vrai que c'est propre à chacun. Il y a des gens à 100 km, ils vont se blesser. Et d'autres à 130, à 16 ans, ils vont pas se blesser. Donc c'est en fonction de... Ça, il n'y a pas de vérité. Hein.
J'imagine quand même, Guillaume, que tu as été suivi très rapidement, qu'on est resté vigilant à ce que tu n'en fasses pas trop, justement, trop jeune.
En fait, quand j'étais plus jeune, je m'entraînais un peu tout seul parce que, justement, je sortais un peu des codes, du coureur, du jeune coureur.
Oui.
Et c'est-à-dire que, il fallait que j'aille courir. Je pouvais pas me rester en place. Donc... Je me suis entraîné un petit peu tout seul en suivant des plans sur internet, des choses un peu farfelues, mais directement moi je partais sur des plans à la Renato Canova, des choses comme ça.
Donc, oulala.
Ça partait sur du très très loin. Mais et après, du coup, grâce au stage au Portugal que j'ai fait avec Johan,
voilà.
Il t'a appris à te calmer.
Grâce à moi, je l'ai canalisé.
C'est surtout que Loïc Letellier a pris en main mon entraînement, et du coup c'est beaucoup mieux structuré et.
Ouais.
Et du coup, maintenant, on a une relation depuis qui est vraiment entraîneur-entraîné. Et c'est top parce que du coup, il arrive à me canaliser quand j'ai besoin d'être canalisé, mais aussi répondre à mes attentes de liberté.
Ouais.
Voilà.
faut pas les brider, ces coureurs-là.
Voilà,
c'est ça.
Mais c'est
ces
ça qui est savoir justement jauger et bien analyser le profil de chaque coureur. C'est vrai que c'est intéressant. Ceux qui se posent la question, Renato Canova, c'est l'entraîneur italien mythique de certains athlètes africains, notamment Kemboy.
Sur
le 10 000. Voilà, donc c'était déjà des plans très, 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 très solides à l'époque. Le lien avec ton papa dans l'adolescence, cette passion commune de la course à pied, ça vous a extrêmement rapproché?
Oui, déjà, ça nous a permis de voyager un petit peu partout en Europe pour les championnats de papa. Après, dans ces épreuves-là, on est en permanence à côté, sur le circuit, et on voit le coureur passer toutes les 5-6 minutes.
Ça,
c'est hyper sympa. Et puis, en fait, on vit les émotions aussi avec le coureur. Et forcément, on a vécu des super émotions. Quand papa, il était en tête à la 23e heure d'un championnat d'Europe et qu'il se fait reprendre à 20 minutes de la fin, etc.
Quelle horreur.
Et on le voit, il court penché, il a plus aucune force, il a 10 à l'heure, c'est beaucoup de souffrance.
Mais ça donne envie, ça, d'y aller.
Non, ça dégoûte un petit peu de la course à pied. Sinon, c'est partager ça en famille, c'est hyper important. Pour moi, c'est hyper important. Mon frère aussi court pas mal et voilà, maintenant, il me suit sur tous mes entraînements, que ce soit à pied ou à vélo. Donc, vraiment, en famille, ça procure des super émotions.
Mais en fait, c'est lié à ton histoire, parce que c'est peut-être cet entourage familial qui t'a permis d'avoir ce volume à ton âge, en fait. Parce que ton père devait comprendre, toi, t'allais aussi sur les épreuves de championnat, donc tu étais un peu dans cette attirance et cette envie de faire la même chose. Tout ça, c'est lié, finalement.
À chaque fois, je me dis, en fait, ça dépend à la personne à qui on est en face de nous. Mais par exemple, papa, je lui dis, ce week-end, l'entraînement, je fais un marathon. Pour lui, ça lui paraît normal. Parce que pour nous, à la maison, papa faisait des marathons, voire deux marathons tous les week-ends. Et ce qui fait que, à l'entraînement, ce qui fait que, pour nous, c'est un peu la normalité. Mmh. Alors que si on va voir quelqu'un qui est novice en course à pied, même sans être novice, qui fait plutôt du 10 km, on lui dit, je vais faire un marathon ce week-end pour l'entraînement. Il va vous regarder avec des grands yeux.
Comme on dit pour les émissions de cascade, ne faites pas ça chez vous, évidemment.
pas reproduire à la maison.
Ces hommes sont des professionnels.
Voilà.
Ne faites pas ça chez vous. Justement, à quel moment l'envie de devenir pro est arrivée assez vite, finalement?
Assez vite, parce que j'ai eu l'opportunité de faire ma première sélection en équipe de France sur un match moins de 23 ans à Rennes.
C'est quoi un match?
Un match, en fait, c'est pas un championnat, c'est une sélection. Où il y a différentes nations. Donc là, il y avait l'Angleterre, le Portugal. C'est un peu un show, on va dire.
Okay.
Donc, c'est un 10 km où il y avait 4 espoirs qui étaient sélectionnés. Donc, il y avait le champion de France du 10 km, du semi-marathon, les deux meilleurs performeurs de l'année, je crois, sur 10 km, dont par exemple Bastien Augusto. Et donc, j'avais fait la sélection et puis j'ai dû abandonner au 3e kilomètre parce que je me suis blessé pendant la course.
C'est trop court.
J'avais pas le temps de m'échauffer, je crois.
Ouais.
Et du coup, suite à ça, j'ai eu beaucoup de mal à digérer. Je me suis fait opérer après du talon, du calcanéum.
Monsieur Durand.
Voilà. D'ailleurs, Johan m'avait très bien conseillé sur l'opération d'Aglone.
Voilà.
Un expert. Tout ce qui est blessure, je suis là.
Et du coup, après, je m'étais fait la promesse de recourir avec l'équipe de France parce que je voulais pas rester sur un échec. Ça a toujours été un peu ma ligne directrice. Et donc, suite à ça, je me suis dit, pourquoi pas vivre de la course à pied et faire de ma passion mon métier, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau quand notre métier n'est même pas un métier, mais une passion, c'est ce qu'il y a de plus beau.
La révélation intervient à 23 ans. Tu deviens le plus jeune champion de France des 100 km de l'histoire. Première participation, tu gagnes 6h42 et 48 secondes. 11e performance française de tous les temps. Là, on est en 2021. Les portes s'ouvrent. Avant de revenir sur cette performance, juste préciser à tous les passionnés qui nous écoutent qu'à l'époque, donc tu prépares ce 100 km, mais tu continues à travailler toutes les distances, le 1500, le 3000, le 5000, le 10000. Tu t'es pas exclusivement enfermé sur le 100 km, tu étais très jeune, 23 ans, tu as continué à travailler tous les domaines finalement.
Ouais, exactement, et en plus ce 100 km-là, c'était le premier, et j'ai décidé de le faire juste 3 semaines avant, j'avais vraiment aucune préparation spécifique, je devais courir un marathon à la place, et j'avais enchaîné plusieurs contre-performances. Et du coup, je m'étais dit, c'est maintenant qu'il faut que je me lance sur le 100 km parce que c'est soit ça passe, soit ça casse. Dans ma tête, j'avais dit à mon père, si le 100 km je le gagne pas, j'arrête la course à pied parce que je suis trop dégoûté.
Et sauf que comme ton père n'est pas formé comme nous, il a dit bah oui, je comprends.
Exactement. Exactement. Il était très très chaud et j'avais ça en tête aussi depuis un bon petit bout de temps de me lancer sur 100 km. Ça faisait, enfin, depuis que j'ai 18-19 ans, je me dis bientôt je vais y aller, bientôt je vais y aller.
Et sur le souvenir de la course, aucun coup de barre, une maîtrise parfaite, comment ça s'est passé?
Non, c'était catastrophique. Je suis parti très vite. Je crois en 3h05 à la mi-course.
Ah, on n'était pas sur du négatif tout de suite là.
Non, là on est sur du positif.
Ah, d'accord.
Et du coup, bah, en fait, dès le départ, j'avais en tête de me dire, bah, je pense que je peux battre le record de France. Donc, j'y suis allé comme ça.
23 ans.
Et puis au 80e kilomètre, par contre, plus de son, plus d'image, j'ai fini à 11 à l'heure les 20 derniers kilomètres. Donc voilà, c'était un peu compliqué à la fin, mais après, vu que j'avais aucun entraînement spécifique, j'étais plutôt agréablement surpris à l'arrivée, quoi.
Ce qui confirme les qualités, Johan, et le potentiel extraordinaire de Guillaume. 23 ans, champion de France du 100 kg avec la 11e performance de tous les temps tricolore.
Oui, et comme il l'a dit, surtout, il a pris des risques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, tu as l'impression que la distance lui fait pas peur. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends mon cas perso, si demain je m'aligne sur un 100 km, bah, je vais essayer de respecter le plan que je me suis donné en essayant de ne pas passer trop vite au 50 pour, pourquoi pas faire la deuxième partie de course un peu plus vite sur un premier en me disant, voilà, je ne veux pas exploser, je ne veux pas prendre le mur au 80e ou autre. Lui, en passant 3h05 au 50, c'est sur les bases de 6h10. Donc, t'imagines le chrono monstrueux sur un premier. Ouais, il a pas peur, quoi. Il est téméraire. Donc, c'est une qualité aussi, hein. C'est ce qu'il faut aussi, des fois, chez certains coureurs, ouais.
Cette révélation et ensuite les sollicitations qui se multiplient, Guillaume, et ce choix important finalement, parce que donc on est en 2021, en fin 2021, tu choisis de rejoindre une structure professionnelle, une structure sud-africaine qui s'appelle Nedbank. Déjà, comment tu fais ce choix et pourquoi l'Afrique du Sud, un pays qui adore les très très longues distances, hein, c'est peut-être lié à tout ça, hein.
Ouais, exactement. En fait, la Nedbank m'a contacté directement. Parce qu'ils étaient très intéressés par le profil que j'avais et surtout en fait ce qui les intéressait c'était mon temps de passage au 80e kilomètre qui les faisait un peu qui les faisait complètement halluciner et du coup bah ils m'ont dit que voilà ils étaient intéressés que je vienne pour courir avec leur équipe en Afrique du Sud donc là-bas c'est très très développé la course d'ultra endurance donc que ça soit sur du format 50, 56, 90 km. Et du coup, tous les athlètes là-bas d'ultra sont professionnels. Et du coup, ça m'a permis de partir faire le 1,50 km donc, là-bas, où j'ai fait le record d'Europe au mois de mars.
Ouais, on en parlera. C'était en 2022, c'était l'année dernière.
Ouais, c'est l'année dernière. Et puis après, je suis retourné mi-avril faire la course des deux océans. Je suis tombé malade la veille de la compétition. J'ai chopé une petite intoxication alimentaire. Ah. Du coup, j'ai pas pu courir, mais sinon... ça m'a apporté beaucoup de structuration dans mon entraînement, dans la vision globale d'un projet sportif.
Juste préciser que c'est une petite structure et que chez les hommes, tu étais le seul européen, seul coureur européen de la structure Nedbank sud-africaine.
Ouais, j'étais seul coureur européen de cette structure l'année dernière. Et sinon, il y a de temps à autre des coureurs polonais qui la rejoignent, surtout des coureuses polonaises.
Ouais, et russe, je crois, j'ai vu.
D'ailleurs. Et russe, ouais, c'est ça.
D'ailleurs, Guillaume, on en parlait, on l'a rapidement abordé, mais tu as poursuivi tes études en pharmacie, hein, c'est ça? Est-ce que tu as laissé tomber, du coup, quand tu es devenu professionnel avec cette structure? T'en es où exactement par rapport à ça?
Alors, moi, je viens d'être diplômé au 1er juillet de cette année, de l'année 2022.
Ouais, t'avais un peu de temps, t'as fait ça.
Du coup, j'étais en année terminale, donc j'avais 6 mois de stage pour terminer, donc du 1er janvier à fin juin. Donc c'était un peu compliqué pour s'entraîner parce que du coup je travaillais de 9h à 20h donc j'allais m'entraîner le matin à 5h, le soir à 21h donc c'était assez chaud mais ça s'est quand même bien passé.
Comment font ces gens, Johan?
C'est ça qui est dur, hein. C'est pour ça que tout à l'heure je relevais le truc, c'est que je me rappelle qu'il était déjà étudiant en pharma et que quand on parlait de l'entraînement et tout, la difficulté... de la France en général, c'est de pouvoir accompagner ces sportifs de haut niveau et là-dessus, on est vraiment mauvais dans l'accompagnement du double projet Bah oui, parce qu'à chaque fois qu'on interview des athlètes de haut niveau qui ont réussi à percer, eh ben, tu sens que les mecs ils ont dû se lever à 6h du mat, courir à 22h le soir, ne plus avoir de vie sociale, faire des efforts, faire des sacrifices financiers souvent pour pouvoir prétendre à atteindre le haut niveau. On facilite pas les choses. Ouais.
Souviens-toi quand on a reçu Yann Schrub, évidemment, qui venait de gagner les 20 km de Paris, qui a fait médaille de bronze au championnat d'Europe quand même sur le 10 000. Souviens-toi, même lui, les doutes qu'il avait, il nous disait, les gars, ça y est, moi, je vais basculer, je vais devenir athlète à temps complet. Même lui avait des craintes, donc c'est dire si le système, pour l'instant, français est mal fait, parce que même des athlètes de cette qualité, de Guillaume ou de Yann, poursuivent des études très loin pour avoir une béquille, entre guillemets.
Une porte de sortie, une solution B si je me blesse, et puis il faut être accompagné, il faut avoir une structure autour de soi, il faut avoir des partenaires, des sponsors, des gens qui croient en vous, et c'est pas toujours facile. Ouais.
Quelles sont les exigences de Nedbank, du coup, Guillaume? Est-ce qu'on te demande de faire des stages là-bas? Est-ce qu'on te laisse assez libre dans la gestion de ton entraînement? Est-ce que tu dois faire des rapports? Comment ça marche, en fait?
Alors, j'étais très libre avec la Nedbank, c'est-à-dire qu'en fait, ils me donnaient un calendrier, je cochais les dates, je leur disais, cette course-là m'intéresse. Et donc, en fait, ils prenaient à leur charge tous les frais de déplacement, les accommodations sur place.
Ah ouais?
Et donc, et l'équipement aussi, du coup, j'étais à l'époque aidé par Nike Afrique du Sud. Et du coup, c'était vraiment un partenariat de ce type-là. Et à côté de ça, il y avait juste, quand j'étais sur place, faire des opérations un petit peu commerciales pour eux ou des choses comme ça, ou des interviews, des choses comme ça. Mais c'était super sympa, c'était bon enfant. J'ai été aussi contacté par eux parce que je me débrouillais pas trop mal en anglais. Et du coup, il y avait un peu tout ça en fait qui est rentré en compte, c'est-à-dire que mon profil aussi d'étudiant les intéressait parce qu'ils savaient que j'avais plutôt la tête sur les épaules et que je me communiquais plutôt bien en anglais, donc ça les intéressait aussi, quoi.
Tu parles au passé, ça veut dire que tu as quitté la structure?
Oui, en fait j'ai dû quitter la structure parce que du coup j'ai rejoint Salomon au 1er août de cette année.
D'accord.
De l'année dernière.
Ok, ouais. Donc gros sponsor qui t'accompagne désormais. Et juste pour conclure sur la Nedbank, à l'époque tu avais comparé ça au PSG au niveau de l'organisation et de la préparation, quoi. Pour tous les fans de foot, c'était un peu...
Par rapport à l'ultra distance, je veux dire, la Nedbank, j'arrivais à l'aéroport en Afrique du Sud et à partir de là, je m'occupais de rien, quoi. Ils me déposaient à tous les endroits, j'avais tout le temps quelqu'un avec moi pour m'accompagner à droite, à gauche. Tout ce qui était protocole de ravitaillement, tout était fait par eux. Moi, j'avais juste à... En fait, ils m'amenaient sur la ligne à courir et puis réfléchir à rien. Et puis, j'étais serein parce que je savais que les ravitailleurs allaient être à tel endroit, etc., que les lièvres étaient prévus sur telle allure et c'est ce qui était fait. Donc, c'était vraiment très, très professionnel.
Ouais. Et du coup, ça t'a fait passer un cap. On l'a dit, une année 2022 fructueuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Record d'Europe du 50 km. Moi, c'est peut-être le chiffre qui me fait le plus halluciner. Alors, je suis pas assez spécialiste peut-être du 100K, mais Johan, courir un 50 km record d'Europe en 2h47, c'est 23 secondes. Ça veut dire une allure de 3,20 km. Ça fait quasiment 18 à l'heure sur 50 km. Ça, moi, j'arrive pas à m'en remettre. En fait, quand je vois ça, je me dis, mais comment c'est possible?
C'est peut-être la distance. Alors, peut-être il nous le dira, mais est-ce que tu te sens plus à l'aise sur le 50 que sur le 100 encore parce que t'es jeune et que tu manques peut-être de caisse sur le. Enfin, de caisse. De pseudo-caisse pour le 100 km? Parce que c'est vrai que c'est impressionnant ce record. Hein. 2,47, 3,20.
C'est-à-dire qu'en fait, le 50, j'avais prévu d'y aller pour battre le record
d'Europe.
Marathon,
en gros.
Oui, c'est ça.
8 km de plus.
C'était 8 km de plus. Mais en fait, c'est que les conditions de course sur place, il faisait 35 degrés et il y avait un taux d'humidité à 80%. Et en fait, quand je suis arrivé, je me suis dit, mais ça va être impossible de battre le record.
Ah bah oui.
Et en fait, les lièvres sont partis sur le record du monde. Donc, on est parti sur du 3,10 au kilomètre. Et moi, j'avais un record au marathon à 2,21 quasiment. Et moi, je suis passé en 2,18 au marathon. Donc, j'étais vraiment dans un super jour.
Ah ouais.
Mais après, enfin. Je pense que ce record est largement améliorable, même par toi, Johan, par exemple.
C'est ce que j'allais dire. Johan, je veux pas faire de comparaison, etc. Mais Johan, toi, ton allure marathon, on est un tout petit peu au-dessus des 3 minutes au kilo. Hein, on est d'accord?
Oui.
Pour l'instant. Ça veut dire que toi, c'est un chiffre qui te semble réalisable parce que tu as quand même une marge sur l'allure qui a été adoptée sur
50
km.
Oui, sur 50, il manque. Alors après, c'est 8 km et comme on dit. Entre 35 et 42, il y a une marge, et entre 42 et 35, il y a une autre marge, tu vois.
Oui, mais toi, t'as une marge sur l'allure, quoi.
Mais oui, moi, mon allure marathon, elle est à 3,03, donc je me dis que passer à 3,10, Tu prends 7 secondes au kilo de marge, ouais. Tu dois pouvoir tenir les 8 kills qui manquent, ouais. Ça c'est possible. Mais sur le papier, c'est largement faisable, ouais.
Mais ça veut dire que par toi, Guillaume, ton record d'Europe est encore améliorable, parce que si tu nous dis que les conditions à Pretoria étaient très compliquées, tu peux encore faire mieux.
Ah oui, bah tout à fait. Après, de toute façon, c'est sûr que ça fait très chic de dire record d'Europe, parce que voilà,
ah, ça place
bien.
Quelqu'un.
Non,
bien
non.
Sûr.
Oui, non, mais tout à fait. Mais en fait, moi, je le compare. Cette distance-là, je la compare un peu à un 20 km, à une heure piste, à des choses comme ça qui sont pas forcément qui est pas un semi-marathon, qui est pas un marathon, qui est pas un 10 km. C'est-à-dire, c'est des disciplines un peu cachées de l'athlétisme. C'est peu couru. Donc, voilà, faut pas non plus s'enflammer pour un record d'Europe du 50 km.
Mais bon, passer en 2,18 quand on a un record en 2,21,
c'est incroyable.
Faut être ambitieux.
Ouais, exactement.
Comme je le disais tout à l'heure. Hein.
Des 2,18, il faut déjà s'accrocher sur marathon. Et puis ensuite, il y a ces championnats du monde. Championnat du monde de 100 km à Berlin, donc l'été dernier. Tu termines 5e, record de France battu, record qui datait de 22 ans, 6h19 minutes et 51 secondes. Tu vas nous raconter la course, parce que là aussi, tu as mené un bon bout de temps et un sacré nombre de kilomètres. Tu as pris le mur, je crois, à 80 km, donc à 20 km de l'arrivée. Et au final, tu as cette petite frustration parce que le podium est à seulement une minute. Une minute sur 100 km. C'est fou ça, Guillaume.
Ouais, en fait, la prépa s'était super bien passée pour ce 100 km-là. J'avais fait des semaines de dingue, des entraînements de dingue. Enfin, tout était super.
T'es monté à combien au kilométrage sur une semaine ?
280. Ouais, 280 à fond remue, donc en altitude en plus. Donc, c'était sympa.
Sympa, ouais.
Ouais. Ah, c'est des heures dehors. Hein.
Ah, bah oui. Ah,
faut pas aimer la télé là, c'est pas possible.
Non.
T'as pas Netflix du coup, Guillaume?
Non, je regarde pas. Non.
Ça m'étonne pas. Ouais. Et du coup, ouais, donc raconte-nous cette course. Tu décides d'imposer l'allure, tu te mets devant et puis c'est ça, c'est finalement ce,
ouais,
ce mur.
Moi, j'avais un plan de marche en fait, c'était de me dire si je veux faire champion du monde, en fait, faut que je batte le record du monde. Parce que voilà, personne ne pourra le battre. Et du coup, dans ma tête, c'était moi, je veux battre le record du monde. Donc, je passe au. Enfin, déjà, on fait un départ assez groupé avec les Japonais qui
sont les vrais spécialistes de la distance, hein, les Japonais.
Ouais, ils ont fait premier, deuxième et sixième.
Ouais.
Donc, on était un petit groupe de 4-5, mais ça courait pas trop. On était sur du 3,40, 3,45 au kilomètre. Et puis, je sais pas, moi, je suis d'aspect assez fougueux et assez instinctif. Et du coup, j'ai commencé à mettre ma première accélération à partir de 10-12 km. Là, je suis parti sur à 3,15, 3,20. Et puis comme ça, j'ai creusé un premier
écart, que ça bouge,
on va dire.
Ouais.
Ouais, moi, je voulais que ça bouge, je voulais que ça court. Donc après, fallait assumer ce choix de course, quoi. Et donc, je suis passé aux 50 km aux alentours des 2h58. Donc plutôt ce que j'avais prévu entre 2h55 et 3h00. Donc largement en dessous des bases du record du monde qui est à 6h09. Et du coup après les Japonais ont commencé un peu à s'énerver derrière, ils sont venus assez proches, j'ai réussi à tenir la tête jusqu'au 82e. Et puis là ça commence à être vraiment très très compliqué tout seul pendant 82 km. Et du coup le premier me passe à ce moment-là de la course, lui il s'envole vers la victoire.
Okayama, et puis après, 6h12.
Okayama, c'est ça. Mais également un jeune coureur qui a 27 ans.
Ah, c'est ce que j'allais te dire. Mais j'allais te poser la question du renouveau dans cette discipline. C'est peut-être lié d'ailleurs à l'avancée technologique et à l'apport des nouvelles chaussures, parce que ça vous préserve tout de même. Il a 28 ans lui aussi, le champion du monde du 100 km. Donc des mecs de moins de 30 ans qui sont déjà très très performants sur la distance et sur le très long, c'est vrai. Après, le Japon a une position particulière. Et sur le marathon, et sur ce type de distance. Hein, il y a une densité au marathon. Ils sont pas top niveau mondial, mais ils sont tellement nombreux que...
Ils sont très nombreux. Il y a une très forte densité et il y a un vrai amour pour ces distances.
Exactement.
Du marathon, de l'équidène et du 100 km. Ouais.
Mais c'est un peu le même profil que toi, Okayama, Guillaume.
Oui, c'est ça. Tout à fait. Et donc, même le deuxième de la course a fait à 27 ans, je crois, un truc comme
Yamaguchi,
ça.
Yamaguchi, 6h17.
Ouais, et le troisième, Piet Wiersma, le Hollandais, a 20. Il a le même âge que moi, il a 25 ans. Donc c'est une très très jeune génération qui est arrivée d'un coup d'un seul, parce qu'habituellement c'était plus des coureurs entre 30 et 40 qui trustaient les premières places. Donc sinon dans la course, je me fais reprendre au 97e par le 2, 3 et 4. Oh. Et puis après dans la tête c'est un peu compliqué.
97e.
Là, t'as ouais.
Ah, en fait, ouais. Après coup, je me suis dit, c'est un peu comme quand on regarde le Tour de France, quoi. Il y a l'échappée qui fait toute la journée devant et puis qui est reprise à la flamme rouge, quoi.
T'as le maillot jaune qui passe à 500 mètres de l'arrivée.
Une
salut, mon pote.
Tape dans le dos et voilà. Ciao.
Bravo, belle journée. Au moins, t'as montré le maillot. C'est ça.
Ouais,
parlons un peu de travail course à pied, travail qualité. Comment tu l'as préparé? Toi, tu prends aussi des marathons au grand public pour faire des courses préparatoires. C'est aussi ça, ta stratégie, hein, Guillaume.
Ouais, j'aime bien faire des marathons en course préparatoire, vraiment pour mettre un dossard, parce que après je me dis je vais pas faire que 1 ou 200 km dans l'année, j'ai besoin de me faire plaisir, mettre des dossards un peu, même localement. Par exemple, après j'avais couru le marathon de Jersey, enfin qui est pas très loin de la maison, de Rouen, donc ça me fait
prendre le bateau.
Très très plaisir. Ouais, prendre le bateau. Et sinon c'est des semaines d'entraînement qui sont assez avec beaucoup de volume. Mais en fait, on néglige pas les intensités marathon, des rappels un petit peu de VMA, des choses comme ça, parce que sinon, on tombe assez vite dans la monotonie des allures. C'est rapide, c'est vite un peu longué, quoi, de faire du 3,40, 3,50 pendant une heure et demie tous les jours. Donc,
Il faut débrouiller le moteur de temps en temps, parce que là, sinon, tu vas devenir un vrai diesel.
Mais on a des qualités aussi chez les dames, hein, parce qu'on rappelle que Florian Hoth, qu'on embrasse d'ailleurs, parce qu'on a appris sa grossesse, compagne de Nicolas Navarro, d'ailleurs on les salue tous les deux, qui elle aussi a été sacrée championne du monde, qui nous avait dit ça aussi sur sa prépa du 100 km, elle avait gardé du travail de qualité, Johan. Hein.
Oui, non, mais c'est important. Ouais. Et puis dans la prépa, et surtout post-compétition, post 100 km, de redescendre sur des distances un peu plus courtes pour... c'est ça, pour retrouver une qualité un peu de pied, qualité de d'appui, et puis retrouver un peu la vitesse, parce que sinon on s'endort, et puis après c'est ça, on devient un vrai diesel, et Guillaume a 25 ans, donc il faut qu'il bosse le cours de temps en temps. C'est bien ce qu'il fait.
Guillaume, c'est compliqué à comprendre pour nous, c'est dur d'envisager tout ce que tu t'envoies sur une semaine. Est-ce que tu te blesses parfois? Est-ce que ça arrive, ou est-ce que tu as une telle connaissance de ton corps que finalement c'est assez rare?
Est-ce que t'es solide?
Ouais.
Quand j'étais plus jeune, donc quand j'en faisais beaucoup, vers les 14-15 ans, je me blessais assez régulièrement. Et maintenant je me blesse quasiment plus et je touche du bois. Mais je commence à apprendre à me connaître et au moins de petits signes, je sais si ça va être quelque chose qui va me prendre un ou deux jours à m'en remettre, ou si faut vraiment lever le pied parce que il y a danger de blessure qui va mettre un peu plus longtemps.
Et est-ce que tu travailles beaucoup de renforcement, les choses comme ça, justement pour prévenir les blessures, pour être un peu plus solide?
Avant, j'avais pas trop le temps, maintenant j'arrive à trouver plus le temps. Donc tous les jours, je passe 30-40 minutes à faire de la mobilité, du renforcement.
Il te reste du temps. Là.
Là j'ai le temps pour faire tout ça. Là, les journées, maintenant, du coup, c'est 9h, 8h jusqu'à 20h où je peux m'entraîner plein de choses. Donc,
aime ça, mais c'est long quand même. Bon, et puis pourquoi on t'invite en ce début d'année? Parce que tu as communiqué sur ta planification de première partie de saison, et là il y a beaucoup de choses qui nous font rêver. Tu le disais, ça va démarrer le 15 janvier avec ce 10 km de Valence, il y aura le marathon de Séville, il y aura l'éco-trail de Paris, le marathon de Paris, là aussi ça va être intéressant, mais surtout, les choses sérieuses arrivent ensuite. Le 14 mai, une tentative de record du monde du 100 km. Il y avait marqué lieu secret, mais j'ai vu que ça avait un peu fuité. Donc, est-ce qu'on peut en parler ou pas, du coup, Guillaume?
Oui, bon, on peut en parler. Après, c'est juste que c'était pas à moi de l'annoncer.
Ah, d'accord, très bien.
Premier, parce que je suis pas l'initiative du projet.
C'est en Lituanie, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est à Vilnius, en Lituanie, le 14 mai.
Et voilà. Et là, objectif, casser la barre des 6 heures, c'est ça?
Exactement. Casser la barre des 6 heures. Donc, le but, c'est de refaire de la vitesse sur le marathon. Là, je vais partir au Kenya la semaine prochaine pendant 4 semaines et pour préparer le marathon de Séville et le marathon de Paris, où j'espère pouvoir être assez performant d'un point de vue chronométrique. Et donc, cette base-là va me permettre de partir avec de réelles ambitions pour essayer de faire ce record du monde déjà.
C'est quoi l'allure à adopter pour battre le record du monde?
Notre objectif, ça sera 3,36 au kilomètre. Donc, 6h00.
Ok. Eh bien, écoute, Johan, ça te fait rêver?
Ouais, non. Et puis, c'est un beau programme, c'est bien. Il part sur des distances un peu plus courtes, marathon. C'est vrai que je pense que sur marathon, il a un profil à pouvoir se rapprocher des 2h12. Je sais pas ce que t'en penses, Guillaume, mais avec un chrono en 2,16 à Caen tout seul, largement 2,10, 2,12 sur des profils un peu plus roulants et avec du monde.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on avait vu avec Loïc, mon entraîneur. On s'était dit, le jour de Caen, je pense que j'aurais pu courir 2,14 sur un très beau parcours type Séville ou Valence. Et puis, avec la progression et de l'entraînement bien spécifique, ça peut faire ouais, un 2-12, 2-10 à l'avenir. Ouais.
Donc voilà, s'il retranche déjà 8 minutes à son record sur marathon, ça veut dire que quand il va passer aux 50, il sera encore plus à l'aise. Donc, ouais, tout est bien planifié et puis il faut lui souhaiter le meilleur. Ouais.
J'ai trois questions avant la séance. La première, est-ce que tu as une stratégie bien établie désormais en termes d'alimentation ? Est-ce que c'est toujours la même ? Est-ce que c'est celle qui fonctionne ? Est-ce que tu as des secrets à nous donner, à donner à ceux qui t'écoutent ?
Ouais, moi, ça fonctionne plutôt bien. Donc, le dernier repas, je le prends 5 heures avant la course pour bien digérer. Et sinon, pendant la course, les ravitaux, c'est... Moi, je tourne, ça dépend. Là, maintenant, je suis avec Overteam, donc je tourne avec Overteam, mais sinon, ça peut m'arriver de tourner avec de la Red Bull.
Du gel ? Ah, des Red Bull, carrément !
Ouais.
Ah ouais, ouais. D'accord.
Et tu le tolères bien ?
Ouais, je le digère très, très bien.
Tu t'envoies pas une canette entière, quand même ? C'est quoi, quelques gorgées ?
C'est 4-5 canettes pendant le 100 km.
Ah ouais, d'accord.
Putain, moi je bois ça, j'ai le cardio.
Et tu dors pas pendant 7 jours 200, après, c'est ça ? Tu pars en rêve parti direct.
Et puis voilà. Exactement, j'enchaîne avec la soirée.
Ah ouais, c'est ça, aucune courbature. Tout. Ah t'imagines ? Ok, bah écoute. Alors, ne reproduisez pas ça chez vous. Là aussi, vous parlez à des professionnels. Évidemment, c'est pas forcément le conseil qu'on peut donner. Moi, je pensais que t'allais me sortir juste une stratégie de gel avec de la boisson isotonique, tous ces trucs. Bah non, voilà.
C'est propre à chacun. Ouais. Hein.
C'est propre à chacun.
Il y a ça aussi, hein, mais.
C'est un détail. Est-ce que tu as des regrets d'ores et déjà, ou est-ce que tu as des envies dans la tête, ou est-ce que c'est trop tard par rapport aux Jeux de Paris en 2024 ? Le 100 km n'est pas une distance olympique, est-ce que c'est pas quelque chose qui était dans un coin de ta tête ?
Les Jeux Olympiques, ça reste dans un coin de ma tête. Pour Paris, je ne m'étais jamais mis ça en tête, Paris 2024, parce que surtout sur marathon, il faut faire la performance bien en amont, c'est-à-dire 2023 quasiment.
Là, ouais.
Ce sera terminé en fin d'année, même si j'ai cru voir qu'il y avait encore la possibilité de le faire début d'année 2024.
Ça peut bouger, t'inquiète pas. Ça finira en tirage au sort, tout ça.
De toute façon, avec la génération actuelle de marathoniens, il faut se le dire aussi, que même si le minima est réalisé, parce que par exemple, moi j'avais en tête toujours les minima de 11-30 et je me suis dit, pourquoi pas 2024, ça le fera peut-être ces minima-là. Mais déjà, les minima ont évolué, puis le niveau français n'est pas ce qu'il était au jeu de Londres. Donc là, il y a du monde au portillon. Donc voilà, faut être aussi. Faut savoir dire quand il y a des coureurs meilleurs que soi, et moi je suis le premier à dire que...
Les vieux sont là et ils s'accrochent, Guillaume, c'est ça le truc.
Ouais, c'est ça, mais après je pense qu'après Paris 2024...
On ne laissera pas notre place.
Après Paris 2024, je pense qu'il peut y avoir aussi un renouveau de la discipline avec des plus jeunes qui poussent derrière, donc voilà.
Voilà, Los Angeles, c'est peut-être pour Guillaume, du coup, pourquoi pas. Allez, on passe tout de suite à la séance.
RMC, la séance.
Alors forcément, Johan, c'est une distance fascinante, effrayante également, ce 100 km. Alors que le marathon s'est démocratisé depuis plusieurs années, le 100 bornes, pour l'instant, c'est réservé à un certain type de coureurs. On voulait aborder cette semaine justement le rapport entre la distance et l'âge des coureurs, les précautions à prendre et les idées reçues à combattre. Alors déjà, question toute simple, Johan, est-ce qu'à ton avis, il y a un âge minimal pour se lancer sur de l'ultra long, sur du 50, du 60, du 80, voire du 100 ?
Non, il n'y a pas d'âge, parce que comme Guillaume, on en a parlé là pendant 40 minutes, voilà, lui il avait 20 ans et il s'est lancé sur la distance, ça a marché. Aujourd'hui, sur marathon, rappelle-toi, on a eu Méline Rollin qui a 23 ans est montée sur marathon et qui a été performance. On a Zach Charik qui a fait 2-13 au marathon à 21 ou 22 ans. Les coureurs kényans aujourd'hui à 18 ans, ils montent tous sur marathon.
Mais tu vois là, tu me parles de champion, Johan. Moi, je te parle peut-être d'athlètes lambda comme moi, entre guillemets.
Mais même aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une démocratisation des distances longues, en gros. C'est-à-dire que ce soit sur la route ou sur le trail, les gens, en fait, ils font ce qu'ils ont un peu envie. C'est-à-dire que ce soit des défis. C'est-à-dire que souvent, pour ces nouveaux coureurs qui arrivent à 18 ans, 20 ans, ils se disent « Ah, je vais me taper un ultra, je vais me taper un marathon, je vais me taper un 100 bornes. » Et ça leur fait plus peur. Un 100 km avant, ça effrayait un ultra. Ah oui. Franchement, moi, il y a 10 ans de ça, quand tu parlais d'ultra, dans la tête des gens, c'était des gens, mais... Enfin, c'était des fous. Tu parlais d'un mec qui faisait un ultra, tu le prenais pour un fou. Aujourd'hui, tu vas dans un club, n'importe quel club d'athlétisme ou de groupe de trailers, t'as des mecs qui courent une fois par semaine, qui ont démarré l'athlétisme il y a 6 mois en arrêtant de fumer et qui se sont mis à faire des ultras. Et comment Casquette Verte en est l'exemple le plus criant. C'est quelqu'un qui a démarré la course comme ça par hasard en arrêtant de fumer et qui s'est lancé des défis monumentaux. Et on a l'impression que plus tu cours longtemps et plus tu es valorisé en gros aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que.
Il y a des barrières psychologiques qui sont tombées.
Et les barrières, elles n'existent plus. Ouais. Tu as raison. Les barrières psychologiques, elles n'existent plus. Donc, ouais.
Est-ce que la prépa d'un 100 km est beaucoup plus difficile, beaucoup plus fastidieuse que celle d'un marathon ?
Non, c'est plus long. Alors voilà, c'est le problème.
C'est différent.
C'est plus long,
ouais.
C'est différent. Ça va être plus énergivore en termes de. En termes de temps, en termes de volume de séance, mentalement à toujours courir des sorties vraiment assez longues. Donc il y a peut-être cette lassitude et cette usure un peu, tu vois. Franchement, j'imagine que les coureurs de 100 bornes sont plus sujets au burn-out sportif que des coureurs sur piste parce qu'ils prennent, je dis pas qu'ils prennent moins de plaisir, mais c'est long, c'est tout le temps long. T'as une usure mentale qu'il n'y a pas quand tu fais du cours. Et puis après, y a la question du physique aussi, tu vois. Est-ce que tu te blesses plus quand tu fais du 100 bornes que du marathon? Franchement, je sais pas, tout dépend de ton corps et surtout du renforcement que tu vas mettre en place et de comment tu vas faire pour bien récupérer des séances. C'est tout une question de programmation en gros.
Tu coupes combien de jours par an, toi, Guillaume?
Je coupe peut-être quelques jours.
Ouais, mais lui, c'est vraiment pas le bon
exemple.
Non.
c'est réalisé par un professionnel. Voilà. Surtout, ne faites pas ça chez vous.
C'est pas, peut-être un jour de repos tous les mois ou tout, ouais, un truc comme ça.
Ah ouais, quand même. Bah ouais,
sinon, il n'y a pas de coupure.
Tu manques de courage, mon vieux. Faudrait courir tous les jours.
Combien tu fais de bornes à l'année pour voir si tu bats Alexandre Casquette Verte?
Non, je le bats pas. Là, cette année, j'étais à 8005.
Oh, le rigolo.
Allez.
Ouais, Alexandre, il a 10 000. Voilà, ça fait 2 ans de suite. Voilà. Mais il nous a dit ça peut péter à tout moment.
Par contre, il en est conscient.
Voilà,
ouais.
Exactement. On peut faire le rapport bénéfice-risque aussi, Johan, de se lancer tôt sur des ultra-longs. Est-ce qu'il y a des risques quand même pour l'organisme?
Bah ouais, malgré tout, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'aspect mental où il y a cette espèce d'usure de faire du long et qui bouffe sur le long terme, tu vois. Et par contre, ouais, après, c'est au niveau des blessures, au niveau des articulations et du cartilage, la répétition des chocs, que ce soit sur la route pour le 100 bornes ou avec le dénivelé, les montées-descentes pour le trail. Même si les chaussures ont beaucoup évolué, même si les chaussures sont beaucoup plus souples, beaucoup plus amortissantes, malgré tout, ce volume d'entraînement et ce volume horaire passé sur les pistes et les terrains font que le corps, il est quand même soumis à rude épreuve. Il y a le corps et puis il y a aussi le fait des fois de faire des ultras, de pas dormir pendant 2 nuits, de pousser son organisme à bout. C'est quelque chose qui use et qui peut amener à la blessure si jamais la programmation n'est pas faite de façon intelligente, si je récupère pas, si j'ai pas une bonne hygiène de vie et tout ça, quoi. Ça, c'est sûr. Hein.
Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui nous écoutent, Guillaume, et qui voudraient se lancer, pourquoi pas, dans l'ultra-long ?
Déjà, je pense que le projet de se lancer dans l'ultra-long, il doit être mûrement réfléchi et ça doit être avant tout à l'envie. Et pas à se dire parce que j'ai envie de faire comme le voisin ou comme mon collègue.
C'est pas un défi du 31 décembre, quoi.
Ouais, c'est ça.
Je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux parce que si on se lance même sur, un UTMB ou un trail de 100 km ou un truc comme ça, je veux dire, au bout de 20 km, si on l'a mal préparé, si on l'a pas préparé, et même si on n'est pas prêt psychologiquement à l'aborder, on va galérer pendant 80 km parce que de toute façon c'est des épreuves où de toute façon à un moment ou à un autre on va être amené à galérer parce que c'est hyper compliqué. Mais par contre c'est des épreuves où on peut se retrouver, apprendre à se connaître surtout et puis découvrir une autre partie de soi et c'est pas ce qu'on peut trouver sur un 10 km ou même sur un marathon. Mais oui, il faut être bien préparé, surtout psychologiquement, je pense.
L'important, comme d'habitude, c'est une bonne préparation, bien s'armer pour affronter le défi et pour faire ça dans les bonnes conditions. Merci les gars, on passe tout de suite au bon plan d'Ossard.
RMC, le bon plan d'Ossard.
Et nous, on va passer du 100 au 10, puisque c'est une toute nouvelle épreuve qui nous intéresse cette semaine. Le 10 km des Champs-Élysées sera lieu le 5 février prochain. Et on est avec l'organisateur de l'événement, Sylvain Pasquinelli, qui est avec nous. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes là depuis un moment. Hein. Désolé d'ailleurs, parce qu'on a un peu tardé. On a pas mal discuté avec Guillaume. Guillaume, il peut le faire facilement, le 10 km des Champs-Élysées, a priori, Sylvain. Lui qui fait du 100 bornes et de l'ultra long.
Ce que j'allais dire, a priori, ça me paraît un peu plus simple que le 100 km, surtout à 3,36 au kilo, si j'ai bien compris.
C'est ça, ouais. Exactement.
Donc le 10 km, ben, ça va très vite. On tombe, voilà. C'est une distance aussi qui permet à tout le monde de courir, mais c'est aussi aux performeurs et aux champions de faire une belle perf.
Alors, ce qui nous intéresse, c'est le cadre, le contexte, évidemment, puisque ça aura lieu au début du mois de février. On va traverser l'avenue Hoche, les Champs-Élysées, la traversée du Parc Monceau. Parcours de rêve, en fait, Sylvain.
C'est le plus beau parcours qu'on pouvait imaginer. Et on fait les Champs-Élysées dans les deux sens et deux fois.
Alors, ça grimpe. Hein. Alors, ça descend d'un côté, mais ça grimpe de l'autre. Hein. Donc, attention, ça ne doit pas être tout facile, Sylvain.
Alors, après, on ne peut pas atteindre le Parc Monceau sans monter, parce que le Parc Monceau est un peu haut. Alors ça grimpe, mais ça reste quand même très accessible. On l'a fait plusieurs fois, on est des coureurs. Après, c'est aussi sympa quand il y a un peu de dénivelé. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a un peu de dénivelé, certes.
Ouais.
Mais je pense que ce n'est pas de ça dont on va se souvenir. Hein. On va surtout se souvenir de la beauté.
Ah, ça, c'est sûr. Ça fait rêver, Johan, quand même, ce parcours. Hein.
Non, bah ouais, toujours. Bah, les courses parisiennes, hein, honnêtement, ouais, pour être un... Moi, je ne suis pas du tout parisien, hein. Je suis un enfant de la province. Et à chaque fois que je monte à Paris et que je cours dans les rues de Paris fermées comme ça un dimanche matin, qu'elles sont que pour les coureurs et que vous passez sur les Champs ou dans les plus belles avenues et les plus belles rues de Paris et que vous voyez les monuments, c'est toujours un moment un peu unique. Ouais. Franchement, c'est découvrir Paris autrement, en gros.
Exactement, et avoir les Champs-Élysées à soi, c'est ce qu'ont la chance d'avoir les marathoniens, hein, le marathon de Paris qui part des Champs-Élysées.
Ah ben là, ouais, on se régale dans la descente.
Et là, c'est magnifique.
Voilà, ils ne font que la descente.
Eh oui, c'est
que
ça.
Là, on a les 200.
Exactement, bravo. Bravo, Sylvain. Donc ça va être top. Vous attendez combien de participants?
Environ 5000. C'est une première édition, on est prudent.
Ouais, ouais.
Il faut d'abord jauger un peu la course, comment la faisabilité de tous les points, les rues qui sont un peu plus étroites, parce qu'il n'y a pas que les champs. Et donc après, on montera en puissance, mais pour l'instant, on a bloqué environ 5000 coureurs.
À quelle heure sera donné le départ de la course, d'ailleurs?
Alors, le départ, aux environs de 10h, entre 10h et 10h15, c'est pas tout à fait fixé, parce qu'après, c'est les problématiques de préfecture de police, de la fermeture des Champs-Élysées. Donc, les horaires, en tout cas, à midi, tout sera terminé.
Bon, à midi, ça laisse une marge, quand même, ça, c'est 10 km.
Du coup, c'est deux boucles de 5,
c'est deux boucles de 5, voilà, c'est ça, c'est une bonne question, ouais. Bonne réflexion.
Absolument, c'est deux boucles de 5 pour bien sentir les Champs-Élysées. Comme ça, on le fait 4 fois, entre la montée et la descente.
Voilà. Pour une fois qu'ils sont privatisés,
qui sont les trop bus.
Voilà, c'est ça. On en profite.
Pour les champions qui vont trop vite, ils recomprennent comment ça se passe, les champs. Voilà.
Exactement.
Il y a 20 km/h ou un peu plus, ils les feront très vite.
Et pour ceux qui connaissent les Champs-Élysées, donc on va jusqu'au rond-point des Champs-Élysées avant les jardins et puis on fait demi-tour. Hein. C'est à peu près ça. Et puis ensuite, on remonte, on tourne
à droite.
Voilà.
Rue de Washington.
Rue de Washington.
On vient de la rue Balzac.
Voilà.
Rue de Balzac qui descend, alors rue de Balzac, elle monte, elle redescend un peu raide, mais après, on est aussi avec des problématiques de circulation, d'interdiction, et que cette année, malheureusement, on ne l'a pas ouvert au fauteuil roulant, parce que cette descente rue Balzac qui tourne très fort à droite sur la remontée de l'Arc de Triomphe. Donc, le parcours est magnifique.
Bon,
on ne peut pas dire autrement.
Je ne peux pas le faire en Vélib, non.
Pas encore.
On surveillera ton Strava.
Bon, très bien. Oui, je serai là, Sylvain. Moi, je vais me faire un plaisir de venir sur ce bel événement. Et je vous remercie d'ailleurs, Sylvain, puisque vous nous offrez donc 5 dossards à gagner cette semaine pour le 10 km des Champs-Élysées. Magnifique course. Allez-y, tentez votre chance. Et puis sinon, allez chercher vous-même votre dossard sur le site. On peut rappeler le site d'ailleurs, Sylvain, pour s'inscrire?
Absolument. www.10km-champs-élysées.
Tout simplement.
En un seul mot.
Et c'est facile à trouver, donc vous pouvez y aller. Et on aura plaisir à vous retrouver sur la ligne de départ. Merci Sylvain, je précise que vous êtes organisateur d'autres courses, donc on est amené à se reparler. Hein, marathon de Deauville et compagnie, pourquoi pas, si vous voulez présenter l'événement chez nous. Vous êtes le bienvenu.
Absolument. Et avant, il y a au mois de mars, il y a le semi-marathon de Cabourg.
Et voilà,
qui
magnifique.
Une épreuve qui est très plate, qui est très plate.
Ah, vous choisissez voilà, vos lieux quand même. Bravo Sylvain, bien vu.
On va en trouver d'autres.
Ouais, d'accord.
Encore merci.
Bon, merci à vous, merci à bientôt. Au revoir. Et on remercie aussi Guillaume qui était avec nous cette semaine. C'était très intéressant de t'écouter. Et évidemment, on va pas faire ce que toi tu fais, mais on est admiratif de tous tes projets, Guillaume. Qu'est-ce qu'on te souhaite alors? Un record du monde du 100K? Ça serait déjà réussi?
Faire un 100 km abouti avec un record du monde ou sans record du monde, mais au moins un 100 km abouti.
Et ben voilà, et ben écoute, si le défi est relevé, tu seras le bienvenu dans RMC Running pour venir nous raconter tout ça, ok Guillaume?
Ça marche.
Alors, on a une tradition pour terminer, on t'a demandé la musique que tu écoutes en courant, tu cours 35 heures ou même 40 heures par semaine et pourtant t'écoutes pas de musique. Voilà, mais tu nous as dit quand je fais un peu de sport, j'écoute ça.
Ah.
Voilà ce que ça donne, écoute. Alors, voilà. C'est DJ Nariman, Dreams. Voilà. Ah, ça emmène quand même, hein. C'est pas mal.
Ah là, ouais, dans la salle. Ah je vois bien faire sa petite muscu.
C'est ça en fait, Guillaume?
Non, non, en vrai, j'aime beaucoup les... Alors ça n'a rien à voir, mais j'aime beaucoup les combattants UFC du Daguestan parce que c'est des personnages assez inspirants et c'est leur musique d'entrée pour les combats de MMA.
Excellent, bah voilà une belle anecdote. Ouais, mais vous avez le même côté un peu barjo, hein. Et d'ailleurs, c'est très RMC parce qu'RMC Sport diffuse l'UFC, donc voilà, bravo. On était fait pour s'entendre finalement, Guillaume.
Ça doit être ça.
Bon, merci. Bonne chance dans tous tes projets. Évidemment, je remercie le coach Johan Durand qui, comme d'habitude, a été excellent. Et Johan, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils, de nouveaux portraits inspirants.
Voilà.
Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.